Nous allons prendre maintenant le récit de Zachée. Est-ce que vous connaissez ce brave homme, Zachée? Brave homme Zachée. J'allais une fois à Liège en voiture pour voir un monsieur qui avait échappé au troisième infarctus. Cet homme trafiquait avec pour des armes de tout genre contre les Français au Tchad. Et il était vraiment un assassin de grande sorte. Il avait des tueurs à gages et tout. Et dans la prière, pendant la nuit, je ne pouvais plus dormir. Le Seigneur, à un moment donné, m'a poussé à aller là-bas. Et j'ai prié la nuit. J'ai été dormir une heure et demie. Et puis, je suis parti à Liège avec l'idée que cet homme pouvait vivre et servir Dieu et que je devais y aller. Donc, je suis arrivé en réanimation à l'hôpital. Et je lui ai parlé du brigand sur la croix, qui a été pardonné par Jésus, et qui était accueilli le même jour dans le ciel. Cet homme s'est converti et a abandonné tout. Mais la deuxième visite, parfois les visites d'après sont encore plus difficiles. Parce que les gens ont le temps de réfléchir, de se ressaisir, et parfois de regretter. Alors, je suis vivant, je ne suis plus malade, et le péché reprend vigueur. Et puis on aime tellement des tas de trucs sur lesquels on a adhéré depuis si longtemps qu'il est difficile, en réfléchissant, d'aimer Jésus-Christ sans mesure. Il est difficile de l'aimer sans mesure. Il est difficile de l'écouter et de donner tout à Christ. Il faut une véritable folie d'amour, une véritable... peut-être sagesse divine pour tout donner à Jésus. Mais vu de la part de l'homme, c'est une folie. Et je partais, je disais au Seigneur, « Seigneur, je ne sais pas quel texte je dois prendre, je ne sais pas quel texte je dois prendre dans la parole, pourtant j'en connais beaucoup, mais voilà. Et je te laisse me guider, je vais le visiter. » Il n'était plus à l'hôpital, il était retapé. Il avait échappé à la mort, il était dans son bureau commercial et il avait une société immobilière. Donc il organisait l'achat de terrain immobilier, et la construction, il prenait des sous-traitants, il les vendait et à tous les niveaux, il roulait les gens. C'était un as. Et la deuxième chose, il organisait le vol de BMW, de Mercedes, 300-400 voitures tous les ans qui étaient repeintes, démontés, etc., qui partaient un peu à travers toute l'Europe. Et quelques années avant, sans le savoir, j'avais amené quelqu'un au Seigneur qui était un de ses ouvriers. Et c'est assez bizarre hein, dans l'œuvre du Seigneur, comment les coïncidences, c'est pas du hasard, c'est Dieu qui le fait, qu'un homme qui travaillait pour lui avait arrêté, déjà. Et donc... quand il m'a dit toutes les magouilles qu'il faisait, j'ai dit, il y a quand même, vous n'avez pas de casier judiciaire, et comment que ça se passe? Bien, je suis un repas d'affaires, et si les gens ne veulent pas signer, je vais aux toilettes, je prends la carte qu'on m'a donnée dans une secte, je demande à Satan de changer leur avis, et quand je remonte, ils sont tous sourires, ils signent. Et pour les armes, oh ben, si je passe à une frontière italienne ou autre, avec le véhicule plein d'armes, eh bien, je fais la même chose, je m'arrête, je demande à Satan de changer les idées de ces gens là-bas, et ils me font passer des sourires, ils fouillent tout le monde, sauf moi. Bon, je dis, est-ce que je peux avoir la carte? Alors j'ai pris la carte, j'avais comme des milliers de fourmis dans la main, je suis sorti, je l'ai brûlé au nom de Jésus, elle se tordait comme si quelqu'un se tordait à terre. Et j'ai jeté dans l'égout, et... je savais que l'emprise de Satan sur lui était partie, donc il avait accepté Jésus 8 jours avant, il avait accepté, mais vous voyez les liens, il faut déceler où sont les liens, déceler où sont les esclavages de la personne et surtout ses complicités, parce que parfois on aime bien le péché, c'est un relent de plaisir le péché, hein. Si c'était que désagréable, il n'y a pas beaucoup de gens qui pécheraient. À moins que d'être complètement malade. Donc, pratiquement, la carte étant brûlée, je suis rentré et je savais quel texte je devais lire, c'était celui-là. lâché. Sur le temps que je rentre, je la carte dans l'égout, brûlée, je le savais. Et voici le texte. Jésus, Luc 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule qui était de petite taille. Pensant que Jéricho, il y en a deux. Il y a la vieille ville de Jéricho avec toutes les murailles qui s'est écroulée à l'époque de Josué et Caleb, quand les Hébreux sont passés, sur l'indication de Josué et Caleb, ils sont arrivés devant cette ville, ils ont pendant 7 jours tourné alentour en priant, et il y a eu un tremblement de terre, on le voit maintenant au niveau géologique, qu'il y a eu un tremblement de terre là, et tous les murailles sont à terre, tout s'est écroulé, et puis ils ont pris la ville. Et Rahab, la prostituée qui les avait accueillis, a été sauvée avec sa famille. Bon, maintenant ce qu'il y a, c'est que on a construit une autre ville dans une vallée à côté où il y a la vallée des palmiers, la vallée des sources. Il y a 7 sources très abondantes avec de l'eau. On a pu refaire une ville là et elle est magnifique, c'est un beau coin. Mais c'est cet endroit tout compris qui est l'endroit où les Hébreux sont arrivés dans leur terre promise. C'est là que tout s'est débuté. Un peu plus loin, il y a Gilgal. Gilgal, c'est l'endroit où chaque fois qu'il y avait des bagarres avec les Philistins, il fallait se cacher, reprendre des forces, prier, manger, et puis retourner à la bataille. Gilgal n'est pas loin de là. Mais Jéricho, la vallée des palmiers, la vallée des sources, est un très beau coin. Juste à côté, il y a le désert de Judée, qui est mortel pour ceux qui sont inconscients, qui s'aventurent là-dedans sans sagesse. Et c'est là, par hasard, que, c'est pas du hasard, mais pour nous, ça semble du hasard, que Jésus passe, et qu'un homme est dans un arbre rempli d'épines. C'est terrible, les épines. Comment il a pu monter dedans? Regardez ici, derrière toi. Imaginez ça, des épines encore plus épaisses, parfois 2 fois plus longues, et qu'il y en a partout. Bon, ça montre la difficulté de cet homme-là d'accéder à Jésus. Ça montre la difficulté pour cet homme-là de pouvoir être vu par Jésus. Lui, il pense que Jésus ne va pas le voir. Donc, il met le prix. Il met le prix pour être vu. Et il va se faire très mal dans cet arbre. Et en plus, il n'est certainement pas aimé par les gens parce que c'est un grand voleur, c'est un chef républicain, c'est un percepteur d'impôts, c'est un tricheur au service des Romains. Et quand Rome demandait par exemple 1 euro, il en demandait 2 ou 3. Et il pouvait employer les soldats romains pour imposer, pour recevoir l'argent. Donc ils abusaient, et ils étaient mal vus par la population, et donc c'est un homme qui n'a pas beaucoup d'atouts pour rencontrer Jésus. S'en approcher. Ce qui est important, c'est de voir que à la situation aujourd'hui d'Israël, après les camps de concentration avec Hitler, après toute la Shoah qui a eu lieu, et toutes les misères que dans les pays soviétiques on a fait, les pays orthodoxes ont fait aux Juifs, et l'antisémitisme dans un grand nombre de pays musulmans, c'est voir en peu d'années la richesse qu'il y a dans les mains des Juifs aujourd'hui. Et pas tous les Juifs, il y a des Juifs pauvres, il y a des Juifs qui ne s'intéressent pas forcément à l'argent, mais parmi les Juifs, il y a beaucoup de grands financiers, de riches industriels. Et par exemple, à Bacharach, Luxgard, tout la fabrique de verre, si vous voyez, c'est un juif qui est sorti avec sa veste déchirée du camp de concentration. En passette, la même chose. Ils n'avaient plus rien, même pas de bouton à leur veste. Et ils ont réussi en affaires. Tous un après l'autre, beaucoup de ces hommes, dans les artistes, dans les musiciens. Vous avez déjà écouté Yehudi Menuhin? Yehudi Menuhin, perdu toute sa famille dans un camp de concentration. Vous l'avez déjà vu sur un écran jouer. Le génie que c'était à cet âge-là, comme Eli. Ils ont des génies dans cette race. Et pourtant, ils sont 18 millions et demi d'habitants, de juifs. Et nous sommes 7 milliards. Et 64% des brevets sont fabriqués par les juifs. Donc ça se fait qu'il y a autant d'intelligence là. Et forcément, s'il y a les brevets, il y a la fortune qui vient avec. Donc Dieu a donné des dons à ce peuple et, pour réussir. Mais il y a quelque chose qui ne réussit pas, c'est la relation avec Dieu. Il y a quelque chose qui ne réussit pas, c'est la relation avec Dieu. L'orgueil, l'endurcissement, l'argent, ils ont beaucoup de faux dieux. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont refusé Jésus. Et voyant leur entêtement, Dieu a mis des bouchons dans les oreilles et un voile sur les yeux pour ne pas reconnaître Jésus tout de suite. Et dans Romains chapitre 11, nous voyons que l'appel de Dieu sur leur père, les patriarches, est irrévocable. C'est-à-dire, ils sont appelés et ils se convertiront. Quand, Romains 11, verset 35 ou 25, quand l'évangile est annoncé à toutes les nations. Or, effectivement, c'est cela. Et si vous regardez Apocalypse chapitre 3, vous voyez l'église de Philadelphie. Elle est petite, elle n'a pas de puissance, mais elle a gardé fidèlement la parole de Dieu. Elle a une porte ouverte entre Dieu et elle, donc elle est dans le salut. Et pratiquement, c'est elle qui amène des Juifs à la conversion. Et il y a actuellement quand même beaucoup de Juifs à la conversion. Et dans des situations difficiles, souvent, ils se convertissent. Parce qu'un juif qui se convertit, c'est comme un musulman qui se convertit. Il a toute la famille sur le dos. Toute la famille, toutes les traditions. Beaucoup d'hommes sur la terre ne viennent pas réellement à Christ à cause de leur tradition de famille, leur tradition de milieu. Et c'est un gros problème. Il faut énormément de grâce pour passer les craintes, passer les intérêts du milieu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour Zachée. Il a dépassé la limite. En allant dans un arbre où il y a des épines et qu'on ne peut pas y accéder, il l'a montré à Jésus. Il a dépassé les limites. Personne d'autre n'est monté dans cet arbre. Jésus sait reconnaître qui l'aime vraiment. Jésus sait reconnaître qui a vraiment besoin de lui. Jésus peut être à côté de quelqu'un pendant 20 ans ou 30 ans ou 50 ans et ne rien dire, avoir donné des bénédictions, avoir donné des choses à cette personne. Et Jésus attend que cette personne l'aime et lui montre. Vous vous rappelez dans le Cantique des Cantiques, c'est après Ecclésiaste, Proverbes, etc., le Cantique des Cantiques, il y a toujours une phrase qui revient et qui est extrêmement importante, les amis, dans le Cantique des Cantiques, qui scande ce beau petit livre, par exemple, chapitre 2, verset 7, « Je vous en conjure, fuis de Jérusalem », donc c'est toutes les villes d'Israël, hein, parce que la Tsunamite, c'est en fait contre la représentation de Jérusalem, qui un jour accueille le Christ. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Un amour forcé pour Jésus, Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'en a pas besoin. Un amour forcé, Dieu n'en a pas besoin. Ne réveillez pas l'amour. C'est-à-dire, ne faites pas quelque chose pour qu'il y ait de l'amour pour moi, c'est la personne qui doit décider. Chapitre 3, verset 1, regardez bien. Sur ma couche pendant les nuits, je suis dans le Cantique des Cantiques, hein. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Et pourtant, la personne est peut-être passée combien de fois à côté de Jésus? Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Alors, pour finir, la personne se décourage, et dans un peu dans le chaos, la pagaille. Et qu'est-ce que dit Dieu? Au verset 5, je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, c'est-à-dire par la beauté, par la gloire que j'ai mis dans la nature, par laquelle je peux lui parler de moi, mais qu'elle ne voit pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Il faut tout d'un coup que les écailles tombent des yeux, que la conjonctivite disparaisse, que les bouchons des oreilles soient tirés. Alors, c'est ainsi que dans ce livre, vous avez toujours, la même phrase qui revient. Hein? Alors, il faut faire attention. À un moment donné, la personne, donc ici c'est Israël bien sûr, mais on parlera de Zachée après, est un peu comme dans le délire, c'est-à-dire elle est vraiment dans l'amour, de son cœur. Et au chapitre 5, verset 8, « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes. Qu'est-ce qu'il a de plus ton Jésus, que Mahomet ou Bouddha ou les autres, hein? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes, ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. » La myrrhe, c'est ce qu'on offre au roi, au grand seigneur. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolite. Son corps est de l'ivoire poli couvert de saphir. Toutes les visions de Dieu, de Moïse, d'Élie, d'Ésaïe, d'Ézéchiel, de Jean, parlent des mêmes éléments pour montrer la gloire de Dieu. Parce qu'on n'a que des mots de terrestre pour dire qui est dans le ciel. Ses jambes sont des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur, son aspect comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Vous voyez qu'à un moment donné, il faut que la personne arrive à un accouchement, à quelque chose dans son cœur, et à la fin du chapitre 7, verset 11, chapitre 7, verset 11, « Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. » Voilà quand ça change. Voilà quand ça change en amour, et dans la foi, voilà quand ça change. « Je suis à mon bien-aimé. » Je ne suis plus à moi. Je ne suis plus à ma famille. Je ne suis plus à mes traditions. Je ne suis plus à ma race. Je ne suis plus à mon portefeuille. Je ne suis plus à mon sexe. Je ne suis plus à ma baraque, à ma maison, je suis à Jésus. Et ses désirs se portent vers moi. Je sais qu'il m'aime de toute éternité et que je ne serai pas déçu de son amour. Alors après, au verset 12, « Viens mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. » Donc, c'est fait. Là, il y a une alliance entre la personne et son Seigneur. Parce qu'elle lui dit de venir. Et sortons. Il y a des choses que c'est fini pour moi. Vous voyez? Alors, c'est scandé tout le temps au chapitre 8, verset 4. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, dans toutes les autres villes, les localités, les cités d'Israël, les tribus. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Voilà comment Dieu nous voit. Il n'y a pas besoin de comédie dans l'amour et dans la foi. Parce que Dieu n'attend rien de ce côté-là. Dieu n'attend rien de ce côté-là. Dans Ésaïe au chapitre 1, c'est juste à côté. La situation relationnel entre les Juifs et les Hébreux et leur Dieu, qui est vivant, qui a fait des miracles puissants, est tellement mauvaise au niveau du cœur de ce peuple, est tellement mauvaise. Regardez, ce brave Esaïe, qu'est-ce qu'il dit ? Au chapitre 1, vous avez juste après le livre des Cantiques des Cantiques. Et c'est ça, ça c'est bien. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes ? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, tout le cœur est souffrant. Donc la tête, c'est le roi, c'est les dignitaires. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et maintenant, vous pouvez comprendre que dans Luc chapitre 10, quand Jésus raconte l'histoire du bon samaritain qui s'arrête au bord du chemin et qui met de l'huile sur la plaie, qui met du vin, qui met sur l'âne et qui amène à l'hôtellerie, qui donne de son argent, c'est le Christ. Il est considéré comme un samaritain, comme un mauvais juif. C'est le Christ qui s'occupe d'Israël, Jésus, et qui s'approche et qui se prend soin d'Israël. Voilà pour quelle raison cet homme s'arrête sur le chemin de Jérusalem à Jéricho, pour soigner cet homme qui n'est que la figure et l'image d'un Israël malade, séparé de Dieu. Et nous, j'ai fait 11 conférences à Virton, à peu près autant à Aide. Pas un seul gourmet n'est venu. Tout est enregistré sur cet appareil et va sur Internet. Sur la même durée, il y a eu peut-être 1300, 1400 visites, 31 qui regardent les enseignements. Mais pourquoi ne viennent-ils pas ? Ce ne sont que blessures, contusions, plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Le problème, c'est qu'ils ne veulent même pas qu'on les soigne ici en Gaume. Eh bien, Israël était dans le même état. Israël était dans le même état. Et donc, reprenons dans Luc, au chapitre 19, la ville où le bon samaritain, donc Christ, a descendu cette personne, c'était à Jéricho, sur son âne. Et il a marché à côté de l'âne, Jésus, dans ce désert horrible. J'ai vu des photos d'un film sur le désert du Sinaï. Il y a beaucoup d'Érythréens chrétiens qui fuient l'Érythrée vers Israël. On a retrouvé les corps de 41 000 Érythréens secs, secs, morts de soif et de faim dans le désert. Le désert n'est pas un cadeau, les amis, c'est la mort. Alors, dans Ésaïe chapitre 14, c'est Satan qui fabrique le désert. Dans Ésaïe chapitre 14, Satan fabrique le désert. Dieu a créé le paradis terrestre, l'Éden, lui. Alors, nous sommes à la ville de Jéricho, cette ville fort importante où Israël est arrivé sur sa terre promise. Nous sommes dans cette ville où cet homme blessé, Jésus, le bon samaritain, l'amène pour le soigner. Et nous sommes dans cette ville où Jésus rencontre Zachée. Je pars de l'idée que Zachée est l'image d'Israël, tout autant que l'homme couché sur le chemin, blessé, presque mourant. Je pars de l'idée que Zachée est corrompu par l'argent, corrompu par sa vie, séparé de Dieu et attaché aux passions humaines, et que Jésus le visite. Je pars de l'idée que Jésus veut sauver Israël. Même si Israël est dans les épines. Vous savez que les épines, dans la Bible, représentent les péchés, les ronces, les péchés. Dans Ézéchiel, lorsque le Fils de l'homme apparaît dans sa gloire, au chapitre 2, chapitre 8, et qu'il est sur un cheval de gloire, il est dans des ronces et des épines. C'est Israël. Alors, regardez bien à quel point cet homme réagit avec joie. Luc 19, verset 5. « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » À un moment donné, Jésus sait quand réellement on veut la connexion et la rencontre avec lui. Autrement, de la rigolade et du semblant, il n'en veut pas. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est Tout-Puissant, Jésus est Saint, Jésus est Omniscient. Ne ravalez pas Jésus au rang des idiots, des mécréants, des gens qui sont incapables de voir le vrai du faux, le pur de l'impur. Jésus est Dieu. Vous savez que dans l'Apocalypse, à la fin des temps, Jésus dit ceci à toutes les églises, que celui qui est pur soit encore pur, que celui qui est impur soit encore impur, que celui qui se souille encore, que celui qui ne se souille pas, ne se souille pas. Donc, c'est tranché, il va chez lui, il ne va pas chez quelqu'un d'autre. Voulez-vous que Jésus soit dans votre vie? Pouvez-vous garantir à Jésus que vous êtes sérieux avec lui? Que vous allez lui faire bon accueil? Que vous allez quitter les épines? Votre petite taille due au péché? Pour être son ami? Et regardez. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, ça c'est pas différent en Gaume, hein. Pas différent ici, hein. Tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Prenons l'épître de Jacques, les amis. Prenons l'épître de Jacques, c'est après Hébreux, c'est avant Pierre. Jacques chapitre 2, vous savez, on tombe sur un verset que tout à l'heure Vincent a lu. Et je trouve qu'il y a des coïncidences tout le temps, alors qu'on ne se consulte pas, pour préparer, on ne se consulte pas. Des coïncidences incroyables qui nous dépassent. Alors, Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous savez, quelle est la différence entre un démon ou quelqu'un habité de démon, de mauvais esprit, et une personne sauvée? C'est ça la question. C'est que Zachée ne va pas faire semblant. Il va complètement changer d'attitude. Et moi, je me rappelle de cet homme à Liège. Toute sa vie a basculé. Ce texte que je demandais à Dieu dans la voiture, 2 heures d'auto pour y aller, je ne savais pas quel texte, parce que c'est trop important. Il fallait que ce soit le texte que Dieu me disait de dire. La parole qui sort de la bouche de Dieu, pas un que j'ai sorti comme ça de derrière les fagots pour faire bien. Eh bien, cet homme s'est comporté différemment dans sa vie après, oui. Eh bien, verset 19, tu crois bien, il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons croient aussi, ils tremblent. Donc je vais dire, beaucoup de croyants sur terre, habités d'esprits impurs et d'esprits menteurs, qui se présentent devant Dieu, ont peur de Dieu. et les démons qui sont avec eux aussi ont peur du jugement. Mais, verset 20, « Veux-tu savoir, ô homme, vain ?» Donc, vain dans la vanité, dans l'orgueil, dans le péché. « Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Donc, une foi en Dieu, sans un comportement, sans un changement de vie. C'est pour ça que dans le Cantique des Cantiques, Dieu dit, « Ne la réveillez pas, ne réveillez pas l'amour ou la foi, l'adhésion du cœur, avant qu'elle le veuille. » Parce qu'il ne faut pas que les sentiments pour Dieu, il ne faut pas que les hormones, l'émotionnel, il faut le vouloir, la résolution, la détermination, l'engagement. Alors, veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Les œuvres, les actions, les... Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié, donc pardonné de ses péchés, par les œuvres, donc par son agir, ses engagements ? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, donc allait de pair et se démontrait par le comportement d'Abraham, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi fut rendue parfaite par les œuvres. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. Imputé à justice, c'est un terme juridique dans tous les trucs d'avocat, de juge. C'est un terme un peu compliqué, c'est-à-dire, ben voilà, on traite le dossier, vous êtes classé innocent. On vous accusait de viol, etc. et tout. Le jury a prononcé son verdict, et moi aussi. Monsieur le procureur qui vous accusait, qui cherchait le réquisitoire contre pour vous enfoncer et qui a raison de le faire, a fait son boulot, vous êtes déclaré innocent. Affaire classée. Messieurs, la cour est levée. Vous pouvez sortir. Et la personne sort. C'est fini. Devant Dieu, Abraham est sorti. Lavé. Blanchi. Zaché aussi. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, les actions, et non pas par la foi seulement. Donc les amis, quand nous prenons Zachée comme exemple, je pense que Israël est impliqué dans cet exemple, comme la personne aussi sur le chemin qui est blessée dans Luc chapitre 10, l'histoire du bon samaritain, qui se fait le prochain de la personne mourante. Mais quand on regarde Ésaïe, on voit qu'Israël est dans un sale état. Oui, elle est dans beaucoup d'épines. Cet Israël d'aujourd'hui, il est dans beaucoup d'épines. Quand je regarde les statistiques, je regarde, ils ont déjà eu bien du mal d'accueillir les Félachas, les Juifs d'origine noire, venus d'Éthiopie, Érythrée, Inde. Mais alors là, quand il s'agit des Érythréens, ils sont en train de penser à les renvoyer. Je regarde ça de tout près. C'est pas mieux que l'Europe. C'est pas mieux que l'Europe, parce qu'il y en avait jusqu'en Slovaquie, en Allemagne à pied, qui crevaient de froid, de faim, qui étaient dormés dans les fossés, des femmes et des gosses. Qui, de toute façon, quand ils arrivaient, ils avaient la pneumonie ou la tuberculose. Hein? Sûrement un sur deux. Et qui ne savaient pas encore ce qu'ils allaient devenir là-bas. Les amis, on a fait des camps en Turquie, on a mis des barrages, des barrières, on les a tous retapés en Turquie, chez un intégriste musulman, Erdogan. Dans les camps, on a donné 6 milliards d'argent. C'est pas compliqué qu'on donne de l'argent, on vend des armes, on fait du trafic à travers le monde. C'est de l'argent volé, c'est de l'argent sale. C'est pas un problème pour l'Europe de donner de l'argent. Mais là où l'Europe s'est encore salie plus, c'est de cracher sur les pauvres. J'étais nu, j'étais affamé, j'étais prisonnier. Mais quand avons-nous vu, Seigneur ? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25. Il n'y a pas d'Europe sauvée en Christ s'il n'y a pas une Europe qui respecte les pauvres qu'elle a engendrés sur la terre. Qui respecte les mécanismes, qui change les mécanismes d'injustice et qui respecte, qui accueille les pauvres qui sont les victimes de son égoïsme à elle. Donc, Jésus, comme avec la tsunamite, Jésus est là, il regarde. Il regarde l'Europe. Il regarde chacun de nous quand on vote. Il regarde chacun de nous quand on fait la vaisselle. Il regarde chacun de nous quand on balaye la maison. Quand je me retourne et que je travaille dans le champ, il est là. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'est pas là. Quand je regarde telle et telle chose à la télévision, il est là. Il regarde ce qu'il y a à la télévision, puis il regarde mon cœur. Pour voir ce que j'aime, lui ou ce qu'il y a dans la télévision. Et puis il regarde mes actes, mes comportements. Alors il dit, ne réveillez pas ce brave chrétien avant qu'il ne m'aime. C'est l'Odyssée, ça. Je suis à la porte, je frappe. S'il entend ma voix, je rentrerai. Je mangerai avec lui, il mangera avec moi. S'il entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte. Nous sommes dans une époque de décadence spirituelle énorme. Les amis, n'y participez pas. Parce qu'un christianisme de ce genre-là, il va en enfer. Avec le diable et les menteurs. C'est mis clairement dans l'Apocalypse au chapitre 21 et 22. Dehors les lâches, dehors les menteurs, les idolâtres. Mais ça a commencé, et pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi c'était mis les lâches. J'ai compris au fur et à mesure du temps. C'est la maladie la plus courante, la plus répandue. Et donc quand Dieu dit pour la tsunamite, ne réveillez pas avant qu'elle le veuille. Il faut sortir de sa lâcheté, de son amour du péché, de son amour de soi. Il faut sortir. J'ai, pendant la nuit, j'avais un rêve et il me turlupine parce que ça fait 50 ans que j'ai rencontré le Seigneur, il y a 50 ans. Et je me dis, en 50 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'est arrivé d'aimer beaucoup le Seigneur et de vraiment de l'aimer. Et à d'autres moments, de faire comme s'il n'était pas là. Et dans des milliers de cas, où était mon amour pour lui? Alors que j'avais des certitudes, j'avais des signes qu'il était là. Alors je peux comprendre l'état spirituel d'Israël. Je peux comprendre l'état spirituel de l'Église, de Jésus-Christ. Nous sommes bien médiocres, les amis. Nous sommes bien pauvres et pécheurs. Et pardon, Seigneur. Pardon, mon Dieu. J'ai besoin de conversion tous les jours. Pardon, mon Dieu, redonne-moi mon amour sincère et vrai, puissant, où je ne me retiens pas de t'aimer et de te servir. Pardon, Seigneur, parce que je suis trop souvent l'Odyssée, ou Sardes, ou Thyatire, ou Pergame. Pardon, Seigneur, je veux être comme Zachée. Je vois les épines, et il y en a beaucoup trop. J'en descends, je sors des épines. Je suis petit, ben tant mieux, Seigneur, tu m'as appris que j'étais petit. Il n'y a que les petits qui peuvent recevoir de toi. Je suis petit, Zachée était petit. Seigneur, je suis bien petit. 50 ans après t'avoir connu, c'est pas bien terrible, Seigneur. J'avais pendant la nuit un rêve, je n'aime pas trop te raconter, j'ai rarement des rêves, mais rarement, parce que j'étais au champ, je dors comme un pavé, boum. Mais il m'arrive, la nuit d'avant, je n'ai pas dormi avant 4h10 du matin, et à 6h, j'étais levé, j'étais au champ. Pas moyen de dormir. Parce qu'il y avait des gens pour qui il fallait prier, pour qui je devais lire la Bible. Impossible. Donc, je savais ce que Dieu voulait. Et je l'étais chez au matin, etc., à faire l'étude biblique. Rien n'a empêché de faire l'étude biblique convenablement. Donc, c'était pas la fatigue, c'était spirituellement, il fallait prier. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous priez, vous priez réellement, ardemment. Dieu fait des miracles. Dieu agit dans des cœurs et peut faire basculer des décideurs de notre société, peut faire basculer des gens vers la vérité, vers l'Évangile. Or, si l'Europe se dépérit, c'est parce que les chrétiens ne croient plus aux miracles. Les chrétiens ne prient pas de cette manière en Europe. Il faut que Dieu reprenne autorité. Demandez-lui de prendre autorité. Jésus n'est pas descendu à Jéricho en touriste. Jésus n'est pas venu sur la terre à Gomery, à Virton, à Bruxelles, dans nos pays en touriste. Il est venu pour sauver les hommes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu fasse de nous des intercesseurs puissants et des gens qui, dans leur comportement, comme Abraham, démontrent leur foi, leur justice et leur sainteté pour le Seigneur. Que le Seigneur voie en nous un véritable amour pour lui. Que le Seigneur Jésus voie en nous un véritable attachement, une véritable affection, une véritable passion pour lui. Là, à ce moment, il peut faire de grands miracles sur la terre. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.